RFI, grand reportage.
Alexis Guilleux.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour à tous. L'Inde est en pleine explosion démographique. Le pays compte 1,3 milliard d'habitants et la population augmente de 15 millions chaque année. Si bien que dans 10 ans, l'Inde aura dépassé la Chine et deviendra le pays le plus peuplé de la planète. Une croissance démographique surtout urbaine, mais les villes indiennes font désormais face au défi des transports. L'usage de la voiture est généralisé. Les transports urbains sont vétustes. De nombreuses métropoles du pays ont donc fait le choix des réseaux de métro. 7 ont ouvert en 5 ans. À Cochin, au Kerala, dans le sud de l'Inde, il a été en partie financé par la France. La fièvre du métro en Inde, grand reportage, signé Sébastien Farcy.
Le 29 septembre dernier, à 10h du matin, dans une des stations de train du centre de Bombay. Comme tous les jours, une foule de milliers de personnes essayent d'avancer sur un escalier bondé. Soudain, une rumeur circule, l'escalier pourrait céder. Et cela suffit à provoquer un mouvement de foule. En quelques minutes, la panique s'empare des voyageurs. 23 personnes meurent écrasées. Cet horrible accident n'est malheureusement pas exceptionnel dans cette mégalopole de 20 millions d'habitants. Son réseau de transport urbain, construit par les colons britanniques il y a 150 ans, est vétuste et surbondé. Il est également l'un des plus meurtriers au monde. 10 personnes perdent la vie chaque jour en traversant ces voies ou en tombant des wagons dont les portes restent constamment ouvertes lors des trajets. Ishwari Bose, une franco-indienne, l'emprunte fréquemment.
Dès le moment où le train commence à ralentir, les gens déjà commencent à sauter du train pour descendre. Et les femmes qui sont montées sont déjà à la course-poursuite du compartiment pour femmes où elles essaient déjà de grimper alors que le train n'est pas arrêté en fait. Le premier jour où j'ai essayé de descendre à ma gare, quand j'ai essayé de descendre, je me suis retrouvée debout sur le quai face au train. Donc j'avais fait un tour sur moi-même pour descendre, je ne sais pas comment, parce que les gens m'avaient poussé et j'avais réussi à plus ou moins descendre. Je trouve que c'est épuisant. Ça peut être très dangereux quand il y a des très gros mouvements que les femmes poussent, elles tirent, elles essaient de monter, de descendre. Il y a quand même régulièrement des accidents. Des gens qui tombent sur les quais, qui tombent sur les rails. Que vraiment, ça demande une force physique quand même.
Bombay est un cas extrême. La ville est encastrée dans une presqu'île, ce qui complique les transports. Mais son exemple résume bien le défi qui se présente à ces mégapoles indiennes en pleine croissance. Car aujourd'hui, 2 Indiens sur 3 vivent encore dans les campagnes ou les petites agglomérations. Et on estime qu'en 2050, du fait de la croissance démographique et de l'exode rural, les villes indiennes compteront 300 millions d'habitants supplémentaires. L'étalement de ces mégapoles augmente les distances à parcourir pour les étudiants ou travailleurs et les transports publics ne suivent pas ce rythme effréné, particulièrement les réseaux de bus qui sont vétustes et peu sûrs. Du coup, ces urbains s'équipent en véhicules particuliers. Le nombre de motos et voitures qui roulent dans les villes augmente rapidement de plus de 10% par an. Une ville a développé bien avant les autres un réseau efficace de trains urbains. New Delhi, mégalopole d'environ 20 millions d'habitants avec ses banlieues, a ouvert le premier métro moderne indien il y a 13 ans. Ce réseau a été développé à une vitesse impressionnante pour se transformer aujourd'hui en une vraie pieuvre qui s'étend sur les 2 États adjacents. Shankar Singh est un paysagiste qui habite dans la ville satellitaire de Noida, au sud-est de New Delhi. Il se rend tous les jours en métro à Gurgaon, l'autre banlieue commerciale du sud-ouest. Une épopée simplifiée par le métro.
Cela me prend 1h30 tous les matins, près de 3h aller-retour. Je pars à 7h30 et je reviens chez moi à plus de 20h. Cela fait 3 ans que je fais ça, 6 jours par semaine. Et heureusement qu'il y a le métro, car cela va beaucoup plus vite qu'à l'époque où je devais prendre le bus. Cela pouvait alors mettre 4 heures aller-retour pour couvrir cette distance, à cause des embouteillages et des feux rouges. Je gagne donc au moins 1 heure par jour.
Les passagers y gagnent également en confort et en sécurité, comparé à des trajets en bus bondés qui foncent dangereusement dans la circulation chaotique de New Delhi. Surtout dans cette ville connue pour ses agressions sexuelles, les jeunes femmes, elles, ont conquis une plus grande indépendance car le métro est moins cher et bien plus sûr que les autres transports. Kangan est une jeune étudiante qui traverse régulièrement la capitale du nord au sud pour aller à l'université.
Si je prends un taxi ou un triporteur, cela me coûte 4,50 €, alors que si j'emprunte le métro, cela revient à seulement 45 centimes. Avec le métro, je couvre le trajet en une heure du nord au sud de la ville, contre 1h30 en voiture s'il n'y a pas d'embouteillage. Je monte dans le compartiment pour femmes pour être plus en sécurité, car on ne sait jamais si quelqu'un viendra m'aider si je suis dans le compartiment des hommes. En général, cela se passe plutôt bien. Ce n'est pas aussi risqué qu'on le dit.
L'expérience réussie de New Delhi a ainsi servi de modèle pour tout le pays. Depuis 5 ans, 7 villes ont ouvert leur propre réseau de métro dans les grandes villes de Lucknow, capitale de l'Uttar Pradesh, et de Madras, dans le sud. Une modernisation bienvenue, mais parfois mal planifiée. À Jaipur, au Rajasthan, par exemple, le récent métro n'est utilisé que par 15 000 personnes par jour pour une population de 3 millions d'habitants. Surtout, ces métros ne sont pas construits en intégrant le reste des transports publics, comme l'explique Amit Bhatt, responsable des transports urbains pour l'ONG World Resources Institute.
L'un des principaux problèmes avec les métros en Inde est qu'ils vous font voyager d'un quai à un autre. Mais personne ne s'est demandé comment atteindre ce quai, car ils sont seulement conçus comme des projets de construction. À Delhi, par exemple, nous avons découvert qu'il y a environ 16 agences qui planifient les transports urbains. Vous avez ceux qui font les trajets de bus, d'autres les arrêts de bus, les pistes cyclables, quelqu'un qui fait le métro, et aucune de ces agences ne se parle. Le résultat, c'est que vous avez un service désordonné. Les tarifs ne sont pas intégrés, ni les horaires ou les infrastructures. Ce dont la ville a besoin, c'est de l'équivalent de la RATP parisienne, quelqu'un qui supervise toutes ces organisations. Mais le problème, c'est que personne ne veut abandonner une partie de son pouvoir.
Le gouvernement central s'est rendu compte de ce problème et depuis quelques mois, il oblige les agglomérations à établir une autorité municipale de tous les transports si elles veulent recevoir des fonds fédéraux pour la construction de leur métro. Une ville est pionnière dans cette planification globale de son système de transport, c'est Cochin, la deuxième ville la plus peuplée du Kerala, au sud du pays. Ce réseau a la particularité d'avoir été financé en grande partie par l'Agence française de développement, et nous allons donc voir plus précisément comment ce métro commence à changer la vie de ses habitants et quels sont les plans pour enfin coordonner tous les transports de la ville.
Please mind the gap between the train and the platform.
Alors nous sommes ici dans l'une des stations de métro de Cochin, celle de Maharaja College, en plein centre de la ville et qui marque le début de la première ligne construite. Les wagons que l'on voit ici sont construits par la firme française Alstom. Ils ont été peints en turquoise, couleur du métro de la ville. Et à l'intérieur, eh bien, pas de séparation entre ces wagons. Ce sont comme une grande rame unique. On peut passer d'un wagon à l'autre sans problème, ce qui est assez agréable. Et il y a une nouveauté dans ces rames, les ports USB qui permettent, entre autres, de recharger son téléphone portable. Alors nous allons maintenant suivre Sophia Joseph dans son trajet quotidien en métro de retour du travail. Cette jeune banquière âgée de 26 ans a été l'une des premières utilisatrices de ce métro. Et elle est ravie de ce service.
J'étais en congé maternité et je redoutais déjà mon retour au travail, car à cause des embouteillages, le trajet entre ma maison et mon bureau me prenait au moins une heure. Mais une semaine avant mon retour, j'entends que le métro vient d'être inauguré et qu'il commence à Maharajas, qui est juste à côté de chez moi. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais heureuse, car c'est la meilleure chose qui m'est arrivée et qui est arrivée à Cochin. Cela me fait gagner énormément de temps. Avant, je devais partir à 8h45 pour arriver à 10h. Maintenant, je peux partir à 9h15 et arriver en 25 minutes maximum. C'est formidable, car cela veut dire que je peux passer plus de temps avec ma famille et mon enfant.
Et avant, comment vous voyagiez ?
Je vais souvent au bureau en voiture avec mon mari car nous travaillons dans la même société. Mais à cause des embouteillages, nous n'arrivions jamais à l'heure. Avant mon mariage, je prenais le bus et c'était encore plus fou car il y avait un monde dingue vu que c'était le seul moyen de transport abordable. Ça m'est déjà arrivé d'attendre jusqu'à 20 minutes et le bus n'est pas arrivé. J'ai donc dû prendre un triporteur pour aller au travail. Ça m'a coûté tellement cher, au moins 250 roupies, soit 3 euros. Maintenant, pour la même distance, cela me coûte 80 roupies, soit 1 euro. C'est vraiment pas cher. C'est sûr que pour une personne qui gagne moins que moi, ça reste trop, car le bus est clairement le moins cher. De chez moi à mon travail, cela coûte 15 roupies.
From Maharajas to my workplace, I'd probably just have to pay, I don't know, say 15 rupees.
Cette première ligne a été ouverte en juin 2017, après 4 ans de travaux. 16 stations sont pour l'instant en service et couvrent une distance de 18 km. Ce métro, comme la plupart des réseaux indiens, est construit en hauteur, c'est-à-dire qu'il longe de manière surélevée les grandes avenues de la ville de Cochin. Cela a plusieurs avantages. Ses piliers sont bâtis sur des terrains publics, ce qui évite d'acheter des terres et de déplacer ainsi des habitants. Des procédures qui sont longues, coûteuses et souvent conflictuelles. Selon les responsables du métro, seulement 200 personnes auraient ainsi dû être relogées pour la construction de cette première ligne. Alors, au bout de 6 mois d'opération, entre 30 000 et 35 000 passagers empruntent chaque jour le métro de Cochin. Et ce sont autant qui ne prennent pas les transports routiers de ces avenues, réduisant d'autant la circulation. L'objectif est toutefois plus large. La direction du métro doit bientôt prendre la tête d'une autorité centrale des transports publics de Cochin, avec comme mission de coordonner les différents transports de la ville, comme les bus, mais aussi les bateaux-bus qui circulent entre les différentes îles de cette ville côtière. Mohamed Anish est le directeur du métro de Cochin.
Après le lancement du métro, les opérateurs de triporteurs et de bus ont décidé de s'organiser et d'opérer de manière plus systématique. Nous nous sommes entendus avec eux pour que des GPS soient installés dans des bus, afin que les passagers puissent les repérer. Nous lancerons ensuite une application mobile qui pourra servir de planificateur de voyage. Et enfin, nous voulons introduire une carte unique de paiement qui pourrait être utilisée pour les différents moyens de transport. Ces innovations montrent que nous nous efforçons d'être en avance sur notre temps.
To be utilized across various modes of transport. We also strive to be ahead of the times.
Ce jour-là, la direction de ce métro, en tant que coordinatrice des transports, a réussi à rassembler les 7 grands opérateurs d'autobus, qui se mènent généralement une guerre sans merci sur les routes de la ville. Ils sont venus signer cet accord autorisant l'installation de GPS dans leurs véhicules, un système qui permettra aux passagers de repérer leur position sur l'application mobile. Dans la salle, Ram Gadassé, Prahim, les cheveux blancs et l'air vaillant ne veut rien manquer de tout cela. Il est le président de l'association des résidents du quartier d'Ernakulam. Cela fait 10 ans, dit-il, qu'il se bat pour la création d'un métro dans la ville et il espère que cette signature est le début d'une meilleure coordination des transports publics.
Les 7 organisations de transport privé sont contrôlées par des partis politiques et c'est donc très difficile de les réunir. Ils vont maintenant signer un document commun devant nous, c'est exceptionnel. Nous espérons que cette coordination va donner quelques résultats. Mais ensuite, il faudra rénover les autres transports. Les ferries, par exemple, sont très vieux, pas synchronisés et ni sûrs. Il faut donc créer un nouveau système de bateaux-bus.
La rénovation des ferries, elle, est prévue pour plus tard et prendra du temps car cela demande une refonte totale du réseau et de gros investissements en matériel. En attendant, le gouvernement régional du Kerala est en train de finaliser la rédaction de la loi qui créera l'autorité métropolitaine des transports de Cochin et donnera ainsi les moyens légaux à la direction du métro pour imposer des trajets et des tarifs coordonnés aux différents opérateurs. Elle sera ainsi la première autorité métropolitaine de transport du pays à avoir autant de pouvoir. Et sa création a été inspirée par une structure semblable qui existe dans la ville française de Lyon. Les 2 agglomérations comptent une population comparable de 1,5 à 2 millions d'habitants et leur rapprochement a été facilité par l'Agence française de développement. Ce bailleur de fonds publics a accordé un prêt de 180 millions d'euros, ce qui a financé le quart de la première phase de ce projet de Cochin. Nicolas Fornage, le directeur de l'AFD en Inde, explique comment s'est déroulée cette coopération.
Ça a été un échange permanent et une découverte mutuelle. Cette découverte mutuelle s'est traduite par, d'une part, bien sûr, des missions de ces personnes de Lyon sur Kochi. Et ça s'est traduit également dans l'autre sens par des visites des responsables du métro de Kochi et des responsables de la ville à Lyon pour voir concrètement comment fonctionne aujourd'hui une ville très bien interconnectée, avec plusieurs modes de transport qui coexistent et qui sont gérés par cette autorité qui s'appelle le Citral. Et ça a été, je pense, une découverte qui a beaucoup frappé nos collègues indiens. Précisément parce que le mode de travail habituel pour construire un métro, c'est on recrute des ingénieurs et on fait du béton.
Le métro de Cochin a également cherché à innover dans les domaines sociaux et environnementaux. D'abord, les toitures des stations sont couvertes de panneaux solaires avec comme but de produire un quart de l'énergie consommée par cette source renouvelable. La direction a également mis en place un système spécial de recrutement de ses agents. Premier objectif, établir une parité totale entre hommes et femmes. Et l'effort se ressent car en passant dans les couloirs, ses agentes sont très visibles. Enfin, une dernière innovation plus originale a fait beaucoup parler du métro de Cochin, le recrutement de personnes transgenres. 23 travailleuses transgenres ont ainsi été embauchées dès le lancement du réseau, que ce soit comme agentes de nettoyage ou guichetières. Une démarche courageuse dans une société indienne où ces personnes sont ostracisées et reléguées à la mendicité ou à la prostitution. Cependant, leur arrivée dans les couloirs de métro ne se déroule pas de manière très aisée. Sweetie Bernard, une transgenre de 26 ans, a fait partie des premières recrutées. Elle travaille comme agente de voyage et explique ce qu'elle doit affronter au quotidien.
Quand j'ai commencé ce travail, j'ai dû faire face à toutes sortes de harcèlement. Un passager sur deux me fixe et éclate de rire, par exemple. La plupart pensent que je suis une prostituée ou une mendiante. Même les superviseurs ou les policiers me harcèlent. Une fois, quand j'étais en train de nettoyer le sol, le chef de station se lève soudainement en me voyant complètement effrayée et fixe mon visage, comme si j'étais un animal. Tout ça m'a rendue très nerveuse, énervée et malade. Et j'ai donc pris de longs congés depuis un mois. Mais je n'ai pas voulu tout abandonner car je suis reconnaissante de l'opportunité offerte par le métro et je ne veux pas la gâcher. Mais je sais aussi ce que je vaux car je suis également maquilleuse, mannequin ainsi que la première présentatrice transgenre de la télévision de l'histoire du Kerala.
À cause de ces problèmes, la moitié de ces employés transgenres ont quitté leur travail dans les 6 premiers mois. 18 autres ont ensuite été recrutés, ce qui fait que le métro de Cochin continue à employer 28 personnes transgenres. Ce métro de Cochin semble donc être un exemple de succès encourageant pour les autres villes indiennes et l'Agence française de développement aimerait faire valoir sa participation à ce projet en proposant maintenant un autre mode de transport similaire, quasiment inexistant en Inde, le tramway. Nicolas Fornage, directeur de l'AFD en Inde.
On pense que la ville d'Hyderabad, comme d'ailleurs la ville de Pondichéry ou la ville de Chandigarh, pourraient être d'excellents exemples de mise en place d'un tramway. Un tramway moderne, bien sûr, à l'exemple de ce qui se fait à Bordeaux, à l'exemple de ce qui se fait à Reims, dans de nombreuses villes en France. Ça coûte à peu près moitié moins cher qu'une ligne de métro surélevée. Et c'est un système de transport parfaitement moderne, très bien intégré dans une architecture de qualité. Le tramway à Reims passe au pied de la cathédrale, littéralement, et il ne départ pas le paysage. Chandigarh, c'est une ville qui pourrait être un excellent exemple pour un premier tramway en Inde, parce que c'est une ville sur laquelle on a des très grandes avenues, beaucoup d'espace, et toute la place nécessaire pour intégrer un tramway dans cette ville. Par ailleurs, c'est aussi une ville à fort patrimoine culturel, du Corbusier. Donc notre espoir, c'est d'arriver à convaincre les Indiens que ça peut être un mode de transport approprié, bon marché, et qui est pertinent pour une certaine catégorie de villes, pas pour les plus grosses villes, ou alors pour les plus grosses villes en complément du système de métro existant.
C'était La fièvre du métro en Inde, un grand reportage de Sébastien Farcy, réalisation Pierre Chaffangeon.